présentation que je vais faire porte sur le Mexique et spécifiquement donc les enjeux de la consolidation aussi bien économique et démocratique. Pour être à la fois économiste et politologue, j'ai souvent du mal à dissocier l'un et l'autre. Mais je crois que les deux, finalement, doivent être pris en considération pour pouvoir construire un modèle de développement beaucoup plus solide dans le cas mexicain et en général en Amérique latine. Cette présentation est basée sur une littérature actualisée, mexicaine surtout, et internationale, mais aussi sur des perceptions, parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore un pays qui a terminé son processus de construction, et donc les perceptions comptent beaucoup plus que dans un pays comme le Canada ou des pays nordiques où les sociétés sont beaucoup plus fortes et solides et on a plus la possibilité de se baser sur des données quantitatives que qualitatives, non ? Donc les perceptions restent fondamentales dans la construction quotidienne de la société mexicaine, et ça il faut vraiment le prendre en considération, et c'est valable pour tous les pays en développement en général. Nous n'avons pas terminé de construire notre environnement social, politique et économique. Donc les sources de cette problématique, pourquoi finalement se poser la question sur les enjeux que nous avons, aussi bien au niveau économique que politique, c'est qu'il existe une préoccupation croissante du monde académique au Mexique, spécifiquement dans notre cas, pour développer un modèle multiniveau, non ? Un modèle qui va du local jusqu'au global et du global jusqu'au local, pour pouvoir reprendre le contrôle sur le destin de la nation. Hein. Le contrôle finalement de la construction de la nation mexicaine, de son économie, de sa politique, n'est plus entre les mains d'acteurs nationaux. Et d'où la frustration actuelle que l'on constate dans au niveau la presse, oui, toutes ces manifestations, parce que finalement la prise de décision n'appartient plus aux secteurs nationaux, hein, mais plutôt aux secteurs transnationaux. Hein. Donc l'idée de construire un modèle qui parte du local pour le faire remonter jusqu'au niveau global, et que finalement les identités mexicaines, et pas l'identité, parce qu'il n'existe pas véritablement une identité mexicaine, sinon il existe des Mexiques, puissent être présentes au niveau de la gouvernance globale qui a des impacts au niveau local, non ? Donc il est important de réintroduire finalement dans le processus de construction politique et économique le facteur humain. Je crois que ça c'est un débat international, mais il est beaucoup plus vrai dans le cas des pays en développement et spécifiquement du Mexique. Non, le modèle global est basé sur des prémices historiques qui n'appartiennent pas aux pays en développement, d'où les dysfonctionnements au moment de la mise en œuvre dans nos pays. Non, et donc il est fondamental de réintroduire la question identitaire qui est très à la mode et qui est très inscrite maintenant dans les différents agendas internationaux. Et l'objectif, encore une fois, est d'introduire les prémices historiques au moment de construire le modèle global qui a des impacts dans la vie quotidienne des gens au niveau local. Non ? Alors j'ai divisé ma présentation en deux parties. Premièrement, le piège de l'insertion non contrôlée dans l'économie internationale. Trois sous-parties, les raisons de cette insertion non contrôlée, les conséquences et les enjeux. La deuxième partie, plus orientée vers le politique et la participation citoyenne, mais aussi liée à la première partie, et concerne le déficit participatif au Mexique, qui est coupable de la difficile consolidation des institutions et de l'absence d'activisme responsable, hein, de l'État. Le piège de l'insertion non contrôlée du Mexique dans l'économie internationale, l'insertion s'est faite l'insertion du Mexique, à la différence des autres pays d'Amérique latine, s'est faite de manière très très rapide, extrêmement rapide et beaucoup trop rapide. On est passé d'un train historique à un autre train historique quand ce dernier était en pleine marche et allait à toute vitesse. Non et c'est dû aussi bien à des dynamiques externes qu'à des dynamiques internes. Non, les dynamiques externes, on les connaît, ce sont les États-Unis, bien sûr, le voisin de toujours, c'est un facteur dans l'équation de la construction du pays que l'on ne peut pas éviter. Les États-Unis, dans les années 80, et afin de conserver finalement leur rôle comme hégémon du modèle global, non, avaient besoin de conserver leur compétitivité. Non, pour faire face notamment à la concurrence de plus en plus importante de l'Union européenne qui se renforçait et du Japon à la fois. La Chine n'était pas encore très présente au niveau global. Donc pour pouvoir conserver leur compétitivité, les États-Unis avaient besoin du Mexique. Le Mexique est d'ailleurs devenu la clé de la compétitivité, du maintien de la compétitivité des États-Unis au niveau de l'économie internationale et également la sécurité énergétique. L'Arabie saoudite n'est plus le partenaire aussi sûr qu'il l'était avant et donc le Mexique est devenu une pièce clé de la sécurité énergétique des États-Unis. Donc le Mexique est devenu petit à petit un facteur de politique nationale au Mexique. Le Mexique est partie prenante de la politique nationale des États-Unis. Au niveau des facteurs internes, bon, la crise de 1982, la crise de la dette mexicaine, a beaucoup changé la donne et l'échec du modèle d'industrialisation par substitution d'importation a provoqué un changement de vision au sein du parti État, du PRI, du Partido Revolucionario Institucional, avec l'arrivée d'une nouvelle génération de leaders politiques au sein de ce parti, des jeunes, très jeunes même, qui venaient tout juste d'étudier leur doctorat aux États-Unis, doctorat en économie, et donc qui sont arrivés avec un nouveau paradigme, disons, au sein du parti, et se sont situés aux dinosaures, finalement, du Parti révolutionnaire institutionnel. Non et ça, c'était très important, et c'est très analysé par Isabelle Rousseau, notamment du Colmex, du Colegio de México, ce changement d'élite politique au sein du Parti révolutionnaire institutionnel. Mais encore une fois, la crise du modèle antérieur a beaucoup joué dans ce changement. Et donc, considérant le nouveau paradigme au sein du PRI, une alliance élitiste a été possible avec l'élite économique nationale, non, qui avait déjà un pied finalement en dehors du pays et surtout aux États-Unis. Non. Voilà. Donc petit à petit, s'est formée une communauté idéologique, non, une communauté même épistémique, non, autour du consensus de Washington, non, entre une élite politique du PRI et une élite économique mexicaine. Non. Et on est passé d'un pacte post-révolutionnaire à un pacte élitiste transnational, qui est très bien décrit par Bisberg, aussi professeur du Colegio de México. Non. En matière de politique publique, le marché, le bon fonctionnement du marché est devenu la variable indépendante. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut considérer que le concept de marché est passé d'une vision nationale. Au départ, ce qui importait, c'était le marché national, c'est ce qui avait le plus de poids dans les indicateurs économiques du pays, dans les fondamentaux, à un concept de marché transnational. Parce qu'aujourd'hui, c'est le marché finalement global qui a le plus de poids dans la construction des indicateurs macroéconomiques, des fondamentaux, à partir desquels les acteurs internationaux, les agences d'accréditation, le Fonds monétaire international nous évaluent quotidiennement. Non mais bon, le marché est devenu la variable indépendante. Non indépendante, et les externalités sociales provoquées par le nouveau modèle, finalement, néolibéral, on commence à être considéré comme un sous-produit du bon fonctionnement du marché. Non ? Un sous-produit du bon fonctionnement du marché. Donc, finalement, le pays s'est ouvert à l'investissement direct étranger, considérant que cet investissement direct étranger pouvait améliorer les indicateurs macroéconomiques. Et également, le pays s'est ouvert à la banque internationale, donc un processus d'internationalisation de la banque jusqu'à la fin des années 90. Avec la vente de Banamex au groupe Citibank. Donc, et l'État mexicain, l'État comme administration publique, non, desde la perspective juridique, l'État est devenu une courroie de transmission sans contrepoids réel, sans contrepoids social réel. Donc le modèle finalement se reproduit. Et ceci, c'est-à-dire, on est toujours dans un modèle de consensus de Washington, non ? Un modèle extrêmement néolibéral. Le Mexique est devenu ce qu'est la Corée du Nord pour le modèle de la guerre froide, en ce qui concerne le néolibéralisme, non ? Et ce modèle-là se reproduit malgré les externalités qu'il génère, non ? Migration, criminalité, économie informelle, etc., etc. On est dans un market governance, comme le commente Snyder. Non, c'est un... bon. Et dans le cadre de l'ALENA, alors ça c'est très intéressant, quand a été mis en œuvre l'ALENA, donc le Telecan, non, en 1994, le pays s'est spécialisé, compte tenu de sa... De son panorama initial, le pays s'est spécialisé dans l'exportation de main-d'œuvre bon marché et peu qualifiée. Ça, c'est la spécialisation du Mexique au niveau de l'économie régionale et donc de l'économie internationale. Donc, le Mexique est tombé dans un schéma de sous-primarisation, comme le commente Stiglitz. De manière générale, le Mexique s'est spécialisé dans l'environnement productif non contraignant pour l'investissement direct étranger, pour la finance internationale, et s'est spécialisé également et malheureusement dans ce qui serait l'environnement qui permet la pollution, non, enfin tout ce qui est résiduel, disons, dans les chaînes productives télécam, non, ou ALENA. Alors ici, sur ce graphe, on voit comment le Mexique et le Chili, d'ailleurs, se sont beaucoup plus ouverts, désolé Hugo, pour ton torticolis, comment le Mexique s'est beaucoup plus ouvert que les pays du BRICS, par exemple, et surtout le Brésil et l'Inde, par exemple, qui sont des pays très peu ouverts, qui contrôlent finalement leur processus d'ouverture. Le Mexique ne contrôle pas du tout son processus d'ouverture. Non, malheureusement. Non. Donc vous voyez, vous avez tous situé le Mexique, non, je suppose, et puis le Brésil, vous l'avez tout en haut, donc un pays qui a un indice d'ouverture commerciale très peu élevé, non, très peu élevé. Donc il y a une stratégie d'État derrière ça qui est très très importante au niveau du Brésil, non. Les conséquences du modèle d'insertion rapide et de la sous-primarisation de l'économie, premièrement la brèche sociale qui s'est accrue au Mexique, non, une concentration des ressources et du pouvoir d'achat, non, qui est très très importante, parce que si on se spécialise dans la main-d'œuvre bon marché, vous comprenez que s'il y a croissance de l'économie mexicaine, effectivement il y a eu croissance, très forte croissance, cette croissance se concentre seulement au niveau disons de l'élite économique, mais pas du reste de la société, non. L'indice Gini est devenu catastrophique au Mexique. On est sur le point de dépasser le Chili et le Brésil, et donc d'avoir le pire indice Gini en Amérique latine, non. Et donc finalement la classe moyenne a fortement diminué, ce qui affectait bien entendu la compétitivité du tissu économique mexicain, puisque les pymes et les mi-pymes, les petites et moyennes entreprises mexicaines, ne peuvent pas se baser sur finalement un secteur social disposant d'un pouvoir d'achat intéressant. Donc ça affecte beaucoup la compétitivité mexicaine. Et ça affecte également, ça affecte la capacité fiscale du pays. Et maintenant qu'on est dans un débat sur la réforme fiscale, sans classe moyenne, il est très difficile, bien sûr, d'opter pour une réforme fiscale qui puisse être intéressante pour l'État. Et le très important au Mexique, le taux de croissance ne garantit pas l'amélioration de l'emploi et du bien-être, ou de la perception de bien-être, non. Et ne solutionne en rien les problèmes sociaux, finalement. Non. C'est pas parce qu'il y a la croissance que le pays va mieux. Si cette croissance se concentre entre très peu de gens, vous comprenez que la croissance peut elle-même générer de la violence sociale. Donc, il y a certains académiques, comme Grania, par exemple, qui dit il vaut mieux ne pas croître au Mexique, parce que la croissance génère de la violence sociale. Non. On n'a pas terminé de se construire comme nation. Donc, avant de penser en termes de croissance macroéconomique, il vaut mieux terminer de construire la nation, consolider la cohésion sociale, économique, culturelle, plutôt que d'opter ou d'avoir comme priorité pour la politique publique la croissance. Non. Les conséquences de la spécialisation dans les bas coûts de production et la main-d'œuvre peu qualifiée sont une productivité totalement cristallisée au Mexique, totalement. On n'a pas augmenté la productivité depuis 1994, c'est exactement la même. Et donc on ne peut pas augmenter les salaires dans ce contexte-là. Les termes de l'échange ont fortement diminué. Et ça, c'est dû au fait que, disons, dans ces chaînes de production de l'ALENA, les États-Unis se concentrent sur ce qui est l'innovation, la technologie, et eux peuvent augmenter leur productivité au niveau national. Ce qui augmente les salaires aux États-Unis quand, au niveau du Mexique, les salaires se stabilisent. Donc ça fait que les États-Unis sont de plus en plus attrayants, bien sûr, depuis 1994, et donc une pression migratoire de plus en plus importante. Non. Autre problème, c'est que les prix au Mexique ont tendance à se niveler sur la capacité en termes de pouvoir d'achat des États-Unis et d'une certaine manière aussi au Canada. On le voit par exemple avec l'aguacate, non, ou même le maïs, non, qui sont des produits basiques, fondamentaux. Dernièrement, au cours des dernières années, les prix ont augmenté. Pourquoi ? Parce que les producteurs de Michoacán, par exemple, d'aguacate, d'avocat, préfèrent vendre aux États-Unis plutôt que vendre sur le marché national. Donc, il reste très peu d'avocats sur le marché national, ce qui augmente le prix de l'avocat. Et ça, c'est un problème très important, ne serait-ce qu'au niveau de la santé publique, puisque l'organisme du Mexicain s'est habitué au cours de milliers d'années à certains produits basiques comme le maïs et l'avocat. Et aujourd'hui, il n'a plus accès, ou de moins en moins accès, à ces produits. Donc des problèmes de santé très très importants. Donc c'est ça en fait. Alors cette différence de productivité croissante entre les États-Unis et le Mexique affecte grandement la capacité d'achat des Mexicains, et donc génère une frustration sociale de plus en plus importante qui se reflète encore une fois par la violence sociale. Non. Également, bon, le problème de cette spécialisation du Mexique, hein, dans la main-d'œuvre pas chère et peu qualifiée, c'est que ça freine énormément l'éducation. En fait, il n'est pas rentable d'investir dans l'éducation au Mexique. Personne, aucun acteur international n'est prêt à accepter de financer l'éducation au Mexique, parce que ce n'est pas la spécialité du Mexique. La spécialité du Mexique, c'est la main-d'œuvre peu qualifiée. Donc, il faut vraiment que le Mexique dispose de moyens propres, non, donc d'une certaine politique fiscale efficace, pour pouvoir financer des politiques, des décisions qui vont à contre-courant de ce que lui dit le marché international. Les indicateurs macroéconomiques, comme je vous l'ai dit, sont entre les mains des acteurs transnationaux. Des acteurs transnationaux comme c'est l'exportation, par exemple. 80% des exportations mexicaines sont réalisées par des entreprises étrangères. Non, seulement 20% proviennent d'entreprises nationales. Et surtout, donc finalement, les exportations nationales, c'est surtout le pétrole. Donc on a un schéma dans lequel 70% des exportations nationales, c'est le pétrole. Si on quitte les exportations dues à l'investissement direct étranger au Mexique. Tout ce qui est exportation, donc croissance, investissement, productif et financier, solidité de la monnaie nationale, tout ça, ça dépend d'acteurs transnationaux. Donc c'est eux qu'on va inviter finalement naturellement à la prise de décision en matière de politique publique, en matière de politique étrangère. Les acteurs transnationaux sont au centre des processus de prise de décision. Donc finalement, la législation au Mexique est au service d'acteurs qui appartiennent au marché global. Non. Et il y a un autre problème que nous avons, c'est qu'il y a une forte évasion fiscale. Ces acteurs étrangers ne paient presque pas d'impôts au Mexique. Il faut le reconnaître, ils ont un pouvoir de négociation, de chantage finalement, vis-à-vis de l'autorité publique mexicaine qui est extrêmement importante. Surtout qu'on est dans un processus de décentralisation politique au Mexique. Et donc les acteurs locaux, les municipalités, les États ont encore moins de poids par rapport aux acteurs transnationaux. On le comprendra bien. Surtout dans un contexte où aujourd'hui les municipalités mexicaines sont en concurrence pour attirer l'investissement étranger. Les municipalités mexicaines sont en concurrence pour accéder aux finances internationales, non, afin de pouvoir s'endetter. Les acteurs transnationaux au Mexique ne paient pas d'impôts et basiquement, si on leur dit bon, maintenant vous allez commencer à payer des impôts, demain ils partent. Rien ne les retient au Mexique. Leurs clients et leurs fournisseurs ne sont pas mexicains. Non. À la différence de l'investissement étranger en Chine ou l'investissement étranger au Brésil, par exemple, ou en Inde, où il y a une connexion entre le global et le local. Nous n'avons pas ça au Mexique. Il y a une absence de spillover, c'est-à-dire de transfert de technologie de ces investissements directs étrangers vers le tissu socio-économique national. Un divorce total entre l'économie globale présente au Mexique et l'économie locale, qui malheureusement maintenant se concentre presque exclusivement au niveau de l'économie informelle. Non. Les bénéfices accumulés par ces acteurs transnationaux ne restent pas au Mexique. Ne restent pas au Mexique et ils ne sont pas redistribués dans la population mexicaine. Non. Et tous les efforts et les ressources de politique publique, ou une grande partie du moins des efforts et ressources des politiques publiques, s'orientent vers ces acteurs transnationaux. Non. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui déterminent les indicateurs nationaux à partir desquels on nous évalue depuis l'extérieur. Non. Et n'oubliez pas que l'État mexicain doit faire une rendition des cuentas, pas, non par rapport à la société, puisque la société ne demande pas finalement une rendition des cuentas, accountability, mais par rapport aux acteurs étrangers, et surtout les agences d'accréditation internationale qui, au quotidien, nous évaluent, qui votent tous les jours finalement. Mais la société ne vote pas quotidiennement, elle vote seulement au moment de l'exercice électoral, c'est-à-dire tous les 6 ans. Et le reste, finalement, des secteurs nationaux ou locaux, non, qui, encore une fois, se réduisent à presque l'informalité, non, l'économie informelle, est en marge du modèle de développement. Non, et est immergé dans une structure d'assistance, non, et vit dans l'assistentialisme, finalement, non, à travers de programmes publics, comme Oportunidades, par exemple, qui ne visent pas l'insertion de la société dans le modèle national, donc dans le modèle global, ou le programme Cruzada contra el Hambre, par exemple, qui est destiné à donner du pain à la société, mais ne pas résoudre véritablement les problèmes structuraux. Non. Ou également les remesas. Les remesas maintiennent dans l'assistentialisme de nombreuses communautés rurales, indigènes, de plus en plus. Les organisations criminelles transnationales, non, les organisations Les cartels mexicains maintiennent également dans l'assistentialisme. Non, les églises très présentes au Mexique. Non, et même malheureusement les universités qui adoptent des programmes qui rentrent dans un schéma assistentialiste, hein, malheureusement. Il y a un non-accès du tissu socio-économique national au crédit. Ça, c'est un gros problème. Pour ça, nous avons une économie, à cause de ça, nous avons une économie informelle très très importante. Non, l'économie informelle, c'est 60% de la population économiquement active au Mexique, 60%. Mais encore une fois, c'est très difficile d'évaluer, c'est très spéculatif, parce que la grande majorité des gens qui travaillent dans le secteur formel travaillent aussi dans le secteur informel. Non, par exemple, dans mon université, les secrétaires, les gens qui s'occupent du jardin, enfin tout, une grande partie du personnel de l'université est là le jour, mais la nuit continue à travailler dans le secteur informel ou les week-ends. Non, l'économie informelle, c'est 35% du PIB, mais n'oubliez pas que le PIB mexicain, c'est surtout les acteurs transnationaux qui le produisent. Donc l'économie informelle représente une très très grande partie de l'économie mexicaine, non, comme telle. Ça va au-delà de ces 35%. La migration également, du fait de la non-inclusion de la société dans le modèle de développement, la migration est devenue très importante. Depuis 1994, en moyenne, 500 000 Mexicains quittent le pays. L'économie actuelle est capable de produire 14 millions d'emplois dans le secteur formel, et nous avons une population économiquement active de 49 millions de Mexicains. Donc 500 000 Mexicains se sentent obligés de quitter le pays par an. Et donc pour nous, c'est un échec social, un échec de notre modèle. Merci. Autre problème très grave pour le Mexique, la perte de souveraineté alimentaire. Et la FAO, met les sonnettes d'alarme en ce qui concerne le Mexique spécifiquement. C'est un des pays qui a le plus abandonné sa souveraineté alimentaire. Nous dépendons de l'importation d'aliments et surtout du maïs, malheureusement, c'est le comble, mais nous sommes le deuxième pays importateur de maïs au monde. Et donc nous sommes condamnés à avoir une monnaie nationale forte, parce que si le peso mexicain se dévalue, automatiquement les aliments augmentent, et c'est une crise sociale catastrophique. Mais en même temps, en maintenant un peso fort, on ne permet pas aux petites et moyennes entreprises d'être compétitives dans le modèle économique, non, qui est le modèle global. C'est terrible comme situation. C'est la camisole de force de Friedman, non, en fait. La structure économique, finalement, c'est un problème structurel très important au Mexique. C'est un problème historique, non, qui affecte actuellement dans le processus. On est inserté dans le processus de démocratisation, non, qui affecte la participation des Mexicains. Si on est exclu du modèle, de facto, on ne va pas pouvoir participer. On se sent impuissant, du moins. Finalement, la structure économique affecte la construction du modèle inclusif, durable et endémique, hein, c'est-à-dire basé sur des facteurs et des acteurs endogènes. Hein. Donc, du coup, le modèle produit exclusion et violence sociale. Alors, ici, quelques chiffres en ce qui concerne, par exemple, le salaire minimum. Hein, nous avons le salaire minimum le plus faible d'Amérique latine. On est condamné à ne pas pouvoir augmenter le salaire minimum, puisque nous sommes en concurrence avec les pays d'Asie du Sud-Est dans ce processus de spécialisation internationale du Mexique. Donc on est condamné à avoir un salaire minimum de 1600 pesos par mois seulement, hein, quand les cartels offrent, du moins à Monterrey, 15 000 pesos par mois. Alors vous comprenez que la criminalité attire, non, énormément. Ici, vous avez l'évolution du salaire minimum au Mexique depuis qu'a commencé le processus d'insertion du Mexique dans l'économie internationale. C'était la chute totale. Le pouvoir d'achat des Mexicains a fortement diminué. Non ? Donc on comprendra pourquoi l'économie informelle est aussi forte, la migration est aussi forte, la criminalité est aussi forte. Non ? Un autre acteur politique très important, une autre soupape, Valvula de Escape, une autre soupape est très importante, c'est la Vierge de Guadalupe, qui est finalement qui est un très bon allié de l'État mexicain, parce que quand les Mexicains ont des problèmes, ils vont plutôt voir la Vierge de Guadalupe que l'État mexicain. Donc ça permet à l'État de se déresponsabiliser également vis-à-vis des problèmes sociaux et économiques. Ici, la productivité mexicaine, ce que je vous ai dit, donc la productivité du Mexique, qui est la ligne en bas, n'a pas évolué. On est au même niveau de productivité que juste avant la mise en œuvre de la LUNA, alors que dans d'autres pays comme la Corée du Sud, par exemple, la productivité a fortement augmenté. Donc on reste vraiment dans le statu quo. Et relativement parlant, la situation empire finalement. Ici, c'est sur ce graphe, vous voyez le schéma fiscal du pays, la récapitulation fiscale. C'est la récapitulation fiscale. Ce que l'État finalement reçoit au niveau des impôts, qui correspond au Mexique à 21% du PIB, quant au Brésil, c'est 34% du PIB national. Et comme vous le savez, c'est surtout Pemex qui apporte au financement du budget national, c'est 40% à peu près du budget national. Donc il est difficile de réformer Pemex. Il est très très difficile, ça pourrait être même un suicide politique. Alors effectivement, dans ce contexte-là, la réforme fiscale est très très importante, mais comment mettre en œuvre une réforme fiscale au Mexique, considérant que très peu d'acteurs veulent et peuvent réellement payer ses impôts et que l'économie informelle est extrêmement importante. Peut-être que je vais devoir laisser la parole et je reprendrai plus tard, mais j'ai toute une série de recommandations ensuite, et puis ce que je voulais apporter ensuite, c'était un petit peu un descriptif du pourquoi est-ce que nous avons au Mexique eu un si fort déficit participatif, un si fort déficit citoyen au Mexique. Juste peut-être quelques éléments, parce que ça me semble très très important. Ce déficit, il faut que vous compreniez que ce déficit participatif au Mexique ne permet pas d'entrer dans ce nouveau modèle que propose la CEPAL, qui est le nouveau désarrollisme ou la nouvelle économie institutionnelle. Et également ne permet pas un activisme responsable de la part de l'État. Premièrement, nous avons une précarité extrêmement forte au Mexique, une perception de pauvreté qui est très très forte. C'est pour ça qu'on ne peut pas se limiter, si on analyse la situation au Mexique, on ne peut pas se limiter aux chiffres de la pauvreté. Ça ne veut absolument rien dire. Rien dire. Plus de 90% de la population au Mexique se sent pauvre et construit son comportement quotidien à partir de cette perception. Et ça, c'est très important. C'est très important de prendre en considération ça. Parce que si on se réfère seulement à la ligne de pauvreté au Mexique, on va considérer que seulement 50% de la population mexicaine vit sous le seuil de pauvreté. Quand dans la réalité, encore une fois, plus de 90% de la population se sent pauvre, à la perception de pauvreté. Parce que la nation n'a pas le contrôle sur les référents. Sur les référents. Les référents, aujourd'hui au Mexique, sont entre les mains de la criminalité, sont entre les mains de Hollywood, sont entre les mains du marketing, du marketing commercial. Donc à partir de ces référents, si vous voulez, la grande partie de la population se sent extrêmement pauvre. C'est pour ça que la criminalité a beaucoup de succès au Mexique, attire énormément, parce qu'elle propose un rêve matériel énorme. C'est pour ça que la migration a beaucoup de succès également, parce qu'elle elle permet d'espérer d'atteindre un niveau de vie matériel qui est perçu comme étant nécessaire pour être pour disposer d'un certain niveau de bien-être, non ? Donc cette perception de pauvreté finalement ne favorise pas la participation. Elle génère un sentiment d'impuissance face à la vie, non ? Et en fait, ça c'est culturel aussi, l'impuissance face à la vie, non ? Donc le destin ne nous appartient pas à nous, humains, sinon que le destin appartient à une loi divine, non ? Donc il n'y a pas une prédisposition de toute façon de la société à participer, non ? On ne peut pas influencer le destin dans l'esprit de beaucoup de Mexicains, surtout dans les zones rurales. Mais encore une fois, la ville au Mexique, une grande partie de la ville est encore très rurale, parce que ça fait 2-3 générations à peine que les Mexicains sont arrivés à la ville, non ? Et dans les communautés indigènes, bien sûr, cette perception également que le destin ne nous appartient pas, non ? Ça affecte la capacité d'organisation des Mexicains, non ? Cette perception de pauvreté et de précarité, non ? Ça met en place tout un tas de mécanismes d'assistentialisme également, qui ne permet pas la participation, non. Et également la perception que les solutions aux problèmes quotidiens sont en dehors de la relation avec l'État, non. Les solutions aux problèmes quotidiens, eh bien, ils appartiennent, on les trouve auprès de la Vierge de Guadalupe. Également, une solution aux problèmes quotidiens, c'est la migration, c'est la criminalité, tout ce que j'ai commenté avant, ou la transnationalisation par le bas. Ça, c'est un concept très intéressant, si on veut comprendre la situation au Mexique, et qui est très développé par Blanca Torres, du Colegio de México aussi. C'est-à-dire, les communautés indigènes, historiquement, n'ont pas de confiance. D'ailleurs, la population générale n'a pas de confiance envers les autorités, non. Et donc, préfère, si vous voulez, développer des relations avec des acteurs non nationaux qu'avec des acteurs publics nationaux. Non. Par exemple, les communautés indigènes sont beaucoup plus en relation avec des ONG ou d'autres communautés indigènes à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays qu'avec les autorités publiques. Non. Quand je vais dans les communautés autochtones, que je demande aux enfants s'ils se sentent de leur culture ou de la culture mexicaine, tout le monde se sent partie de sa culture, mais personne ne se sent mexicain. Personne ne se sent mexicain. Il n'y a pas cette, on n'a pas développé encore ce sentiment d'appartenance à une nation, et ça affecte beaucoup, bien sûr, le processus d'insertion du Mexique dans l'économie internationale et sa capacité à contrôler son propre destin dans ce processus d'insertion, si vous voulez, dans l'économie globale, non ? Et ce que je voulais vous dire également, c'est que, considérant qu'il y a une très forte perception de pauvreté, les gens ont peur. La peur a séquestré la société mexicaine. 70% des Mexicains, je viens de le lire dans Proceso la semaine dernière, 70% des Mexicains ont peur. Ont peur de leurs voisins aussi. Nous avons un niveau de confiance non seulement par rapport aux autorités, mais aussi par rapport aux individus, qui est très élevé, qui est des plus élevés au sein de l'OCDE, de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Il n'y a pas de confiance entre les gens. S'il n'y a pas de confiance entre les gens, il n'y a pas de capital social. S'il n'y a pas de capital social, la société ne peut pas participer dans une relation, si vous voulez, avec l'État pour pouvoir construire un modèle basé sur des prémices véritablement nationales. Hein. C'est très, très, très important, non ? Cette peur qui a séquestré. Oui, aujourd'hui, nous avons une violence sociale, mais le taux d'homicide est le même qu'en 1990. Nous sommes à 20 homicides pour 100 000 habitants, mais la société a beaucoup plus peur qu'en 1990. Et la violence d'aujourd'hui impacte beaucoup plus que la violence de 1990 dans la société mexicaine. Parce que cette peur a généré un fort individualisme. cette peur a développé, si vous voulez, un fort individualisme dans la société. Les gens s'emmurent dans le matérialisme, hein, construisent des forteresses. Et ça ne nous permet pas véritablement de construire une société active. Bien sûr, elle réactionne. Elle a des réactions spontanées, comme on le voit dans les rues du DFA. Mais ce ne sont pas des réactions qui permettent une inclusion de la société dans la politique publique. Non, dans les décisions de politique publique et de politique extérieure du pays. Donc, par rapport à cette situation que je viens de planter, vous comprenez bien que l'État a énormément de défis à réaliser, non, pour pouvoir consolider cette société et se réconcilier finalement avec sa société et les problèmes perçus par la société, qui ne sont pas forcément les problèmes perçus par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'administration publique mexicaine. Non. Il y a les problèmes et les problèmes perçus par la société. Non. Ce sont deux choses différentes. Donc l'inclusion de la société dans la prise de décision est très 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 importante. Et ça, c'est un énorme défi. Merci beaucoup.